23h sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez. Chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai le plaisir d'avoir Florence Alazar. Bonjour.
Bonjour.
Alors, chers auditeurs, c'est une voix que vous connaissez puisque Florence Alazar, vous êtes enseignant-chercheur au département d'histoire et d'archéologie de l'Université de Tours et que nos auditeurs ont pu vous entendre dans la saison 1 de l'émission du département d'histoire. D'ailleurs, je vous invite évidemment à aller écouter les podcasts sur notre site radiocampustours.com. Mais si vous êtes ici aujourd'hui dans cette émission, c'est parce que vous êtes également vice-présidente en charge des conditions de travail, des relations humaines et sociales, du handicap et de la lutte contre les discriminations à l'Université de Tours. Et voilà, vous faites partie aussi de la mission égalité. Alors peut-être tout d'abord, est-ce que vous voulez nous expliquer en quoi ça consiste cette vice-présidence ?
Oui, volontiers. Alors, c'est d'abord rappeler que l'université a un mode de fonctionnement qui est collégial, avec une équipe présidentielle qui est élue tous les 4 ans et qui est une équipe de pairs, c'est-à-dire d'enseignants-chercheurs et de biats d'ailleurs, qui sont là pour en fait conduire, proposer la politique de l'université, laquelle est ensuite votée par les conseils, essentiellement le conseil d'administration, mais aussi le CAC, le conseil de la commission recherche et le conseil de la vie étudiante et de la formation. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, dans cette équipe présidentielle qui a été renouvelée très récemment, à la fin de l'année 2020, j'occupe donc, j'ai en charge la question des conditions de travail, relations sociales, humaines, handicap et lutte contre les discriminations, comme vous l'avez dit. Donc c'est un peu à rallonge. Néanmoins, l'enjeu, c'est effectivement de travailler sur la question de l'environnement de travail, en fait, essentiellement des personnels, mais aussi bien sûr des étudiants, même si là aussi on est plutôt dans une logique d'équipe, puisqu'il y a d'autres collègues à la vice-présidence qui s'intéressent aussi plus spécifiquement aux questions des étudiants. Et en particulier, j'ai en charge l'animation, disons, de la mission égalité, laquelle est finalement, alors, est-ce que c'est à proprement parler un service ? Ça c'est un petit peu compliqué à définir, mais en tout cas, c'est une obligation réglementaire. Hein. Toutes les universités ont une mission égalité depuis 2013, en fait, une série de lois et de décrets concernant l'université. Mission égalité qui a d'abord essentiellement pour fonction l'égalité entre les femmes et les hommes, mais à laquelle est rattachée aussi d'autres questions qui touchent évidemment les luttes contre les discriminations d'une manière plus générale, puisque en fait c'est aussi cet enjeu-là qui concerne finalement toutes les discriminations. Donc c'est effectivement une pratique déjà ancienne dans l'université, enfin un peu moins de 10 ans, donc on peut juger que c'est pas très ancien, mais en tout cas elle a une existence et elle est déjà bien installée. Là, le choix qui a été fait depuis qu'on est arrivé, c'est de la doter d'un personnel à 100%. Madame Christine Inchospé, qui est responsable administrative de la mission égalité. Et donc, pourquoi ce choix? Parce que un des premiers enjeux de la mission égalité pendant ce semestre 2021, ça a été justement de produire le plan pour l'égalité professionnelle dont on va peut-être parler tout à l'heure, et qu'il faut ensuite, c'est pas tout de rédiger un plan, mais il faut ensuite le suivre, veiller à sa mise en application, et ce sera une des tâches principales de cette mission égalité. Donc c'est ça en fait vraiment l'enjeu, d'avoir une mission égalité qui soit bien dotée avec un personnel entièrement dédié.
Alors une question déjà, vous avez évoqué les personnels biats, est-ce que vous voulez expliquer pour nos auditeurs ce que c'est quoi ?
Pardon.
Qui sont-ils et elles d'ailleurs ?
Donc les personnels biats, c'est des rouages très importants de l'université qui a des missions d'enseignement et de recherche, mais les enseignants-chercheurs qui font l'enseignement et la recherche ne suffisent pas à cela. Donc c'est tous les personnels de bibliothèque, de l'administration et technique. Qui font vivre les secrétariats pédagogiques, tout ce qui est support à la recherche, la bibliothèque bien sûr. Donc c'est vraiment tous les personnels autres qu'enseignants-chercheurs qui font vivre et qui font fonctionner l'université.
Donc ça veut dire que ces personnes-là participent aussi, disons, aux diverses instances de l'université.
Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est la communauté universitaire est composée des enseignants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des personnels BIATS et des étudiants et des étudiantes.
Et alors, dans ces différentes instances pour la présidence de l'université, où sont les doctorants ?
Les doctorants ont des élus au sein de la commission recherche, donc voilà, qui avec des postes d'élus qui leur sont réservés, et les étudiants ont aussi sont aussi élus dans les autres instances, en particulier le conseil d'administration et la CFVU, donc la commission formation et vie universitaire.
Donc ça semble important aussi hein, de rappeler que ces différentes instances, elles regroupent bien des représentants de toutes les composantes, enfin, de tous les personnels.
Tout à fait, tous les personnels sont représentés, enfin tous les acteurs en fait de la communauté universitaire. Finalement, communauté universitaire, c'est un terme qui est beaucoup plus inclusif justement parce qu'il permet de rassembler les étudiants dans cette vie-là en fait.
Alors, quand on est enseignant-chercheur, enseignante-chercheuse, on est déjà bien occupé. Alors, pourquoi diable on a envie de se lancer dans une présidence, vice-présidence à l'Université de Tours ? Surtout cette mission-là, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer comme ça ?
C'est un projet collectif, en fait. Donc, un projet collectif et certainement pas une envie individuelle. C'est juste un projet collectif, c'est-à-dire qu'on avait créé un collectif au cours de l'année, en fait, 2019-2020, pour présenter un projet politique, en fait, pour l'université. Et voilà, c'est dans le cadre de ce projet collectif que ça s'est fait. Mais c'est vraiment sur la base d'une équipe. Voilà, c'est jamais une décision individuelle. Voilà, donc c'est vraiment entièrement en termes de réflexion collective que ça a pu se faire.
Voilà, mais c'est ce que vous pouvez préciser, parce que là, c'est quand même des préoccupations autour des conditions de travail, parce qu'il y a d'autres vice-présidences, par exemple sur l'écologie, enfin, il y a énormément de vice-présidences différentes. Alors, pourquoi cette vice-présidence-là ?
Alors, conditions de travail, ça, effectivement, c'est un peu une nouveauté. Enfin, c'est-à-dire que dans la plupart des universités en France, on a, si ce n'est une vice-présidence, en tout cas, une charge de mission autour des questions de la discrimination et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Conditions de travail peut-être moins présents. Là, l'enjeu, c'était d'une part d'insister sur cet aspect-là parce que localement, en fait, et en particulier au moment où on avait créé le collectif en vue de ces élections, il y avait eu, peut-être vous en rappelez, vos auditeurs s'en souviennent, parce que je crois qu'il y avait eu des échos sur Radio Campus, des états généraux de l'université. Qui s'était rassemblé en particulier au mois de mai, au mois de janvier et au mois de mars 2020. Donc c'était dans le monde d'avant. Et dans ce monde d'avant, on s'était aperçu que les questions de conditions de travail étaient très fréquemment soulevées par les personnels. À un moment de crise et de lutte aussi contre la fameuse loi de programmation sur la recherche. Donc l'idée, c'était de traduire en fait ces revendications-là dans les préoccupations de la nouvelle équipe présidentielle. Et donc voilà, on l'a associé aussi à ces questions de discrimination, parce que finalement, ça touche aussi les conditions de travail. C'est-à-dire, dès lors qu'on commence à réfléchir à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, on voit bien que ce sont les conditions de travail qui sont un enjeu aussi très fort. Pas uniquement, mais aussi.
Voilà, est-ce que vous voulez nous dire, par exemple, quels avaient été les points qui avaient été fléchés au moment de ces états généraux de l'université sur les difficultés liées aux conditions de travail ?
Les difficultés liées aux conditions de travail, c'était essentiellement l'accroissement, en fait, tout simplement, du travail. C'est-à-dire une charge de travail décuplée ces dernières années, également une complexification, en fait, des métiers, qui fait qu'il y a un besoin très important, à la fois en termes de formation et surtout en temps, en fait, parce qu'il faut du temps pour acquérir de nouvelles compétences. Et puis, enfin, le point quand même très important et qui reste très vif parce que il est compliqué à traiter, c'est celui de la précarité, avec effectivement une explosion des contractuels qu'on observe partout en fait dans la fonction publique, mais particulièrement dans les universités et aussi donc à l'université de Tours. Et ça a été un des gros points de discussion, la question de la précarité.
Donc plus d'étudiants, mais pas de postes pour des enseignants.
Voilà, alors là, bon, il y a une discussion très importante en ce moment avec le ministère pour essayer de travailler particulièrement ces questions-là. Mais bon, la négociation, donc à suivre.
À suivre. Et ces préoccupations-là, est-ce qu'on retrouve de telles vice-présidences, de telles missions égalité dans toutes les universités de France ? Ou est-ce que c'est spécifique à l'université de Tours ?
Non, ça, il y a une vraie préoccupation qu'on observe partout. D'ailleurs, bon, il y a une association en fait des chargés de mission ou vice-présidents à l'égalité qui a tenu d'ailleurs un colloque la semaine dernière, qui tiendra son assemblée générale prochainement, et donc qui regroupe, alors j'ai pas le chiffre en tête, hein, mais voilà, enfin pas loin de la totalité des universités. Autour de ces questions-là, ce qui est un appui très important d'ailleurs, parce que ça permet un échange d'informations, donc voilà, une veille sur ces questions-là, une veille à la fois scientifique et réglementaire en fait, et un partage de bonnes pratiques, disons. Et donc c'est très important d'avoir ce réseau-là entre universités pour pouvoir conduire une politique sur ces questions.
Ça veut dire que potentiellement, les universités, puisqu'elles se saisissent de façon transversale de ces questions interuniversités, est-ce que c'est un espoir, une chance de peser un peu plus face à des lois qui peuvent être contestables ?
Oui, alors face aux lois, ça, c'est encore un autre sujet, voilà, parce qu'il y a plusieurs modalités d'intervention. Mais une chose est certaine, c'est que ça permet de mettre le sujet vraiment sur la table. C'est-à-dire que de fait, il y a une sorte, enfin, dès lors que l'action justement est collective, enfin, on en revient toujours à ça, que ce soit le collectif à l'échelle de l'université ou le collectif à l'échelle des universités. En France, voilà, on sait que on peut mettre cette question-là sur la table, et dans la mesure où nos voisins universitaires vont faire de même, eh bien voilà, progressivement, c'est un sujet qui s'impose et qui devient de plus en plus évident. Et déjà, on l'observe, enfin, on en voit quand même déjà un petit peu les résultats, c'est-à-dire avec une sorte d'évidence sur certains sujets. Qui voilà, faut juste regarder à 10 ans. Il y a une petite dizaine d'années, c'était des questions qui posaient problème et qui aujourd'hui sont évidentes. Hein. Quelques exemples sur le passage la suppression du Mademoiselle, alors qui concernait en toute la fonction publique, mais qui était vu, moi, j'ai le souvenir de discussions à l'échelle de l'université il y a 10 ans, voilà, on s'entendait dire que bon, c'était finalement pas très important. Enfin, c'est toujours ça, hein, cette idée-là, bon, ça c'est pas très important, il est toujours plus important. Maintenant, c'est à peu près passé dans les mœurs. Ça apparaît comme une évidence quand même.
Oui, c'est ça, le discours de... Bon, il y a des choses plus graves, quand même. Voilà. Des choses plus graves, quand même, mademoiselle. Donc, j'en reviens à cette mission égalité, Florence Salazar. Donc, elle s'appuie sur plusieurs personnes ressources. Donc, évidemment, madame Inchauspé, responsable administrative, qui peut-être nous écoute et qu'on salue au passage. Mais il y a aussi plusieurs référents et référentes. Est-ce que vous voulez nous les présenter ?
Oui, alors ça, c'est les référents donc qui permettent justement d'abord d'associer davantage de personnes à ces questions de lutte contre les discriminations, et puis aussi qui ont un rôle, disons, de veille sur un certain nombre de questions. Donc on a par exemple un référent racisme et antisémitisme. Qui peut être saisi par aussi bien les collègues que les étudiants qui seraient soit victimes, soit témoins de discrimination. On a un référent laïcité Et puis plusieurs référents égalité, en fait, pour les personnels, pour les étudiants également. Là, l'enjeu, en fait, c'est vraiment d'avoir une sorte de maillage de ces questions-là sur l'université et de permettre, en fait, aussi bien aux collègues qu'aux étudiants de s'adresser à des gens qui sont proches, puisque ce sont soit des personnels BIATS, soit des enseignants-chercheurs qui occupent ces fonctions. L'idée aussi, c'est qu'ils ne sont pas seulement des personnes vers lesquelles on peut se tourner, mais c'est aussi avec eux qu'on peut construire une politique, justement, pour... qui ne se contente pas de réagir à un événement, à une discrimination, mais avec laquelle on pourrait éventuellement construire des actions de prévention, et puis essentiellement de diffusion autour de ces questions-là.
Donc vous évoquiez donc Sylvain Crépon, hein, qui est référent racisme et antisémitisme. Juste pour que on ne se méprenne pas, c'est quoi l'antisémitisme ? Qu'est-ce que vous en diriez ?
Ah, je m'attendais pas à une question de ce type. L'antisémitisme est parfaitement défini, je crois, par la loi. On peut se référer à la loi Guesso, hein, qui interdit tous les propos, contre les personnes qui sont d'origine ou qui se revendiquent du judaïsme. Donc voilà. il y a une définition. Alors là, j'ai pas la définition tout à fait précise telle qu'elle est en tout cas dans la loi Guesso, mais on a des éléments très clairs sur cette question-là. Donc ça, c'est pas un problème. En termes de définition, c'est absolument pas un problème. Je crois qu'il y a un consensus sur ces définitions.
Alors, c'est peut-être aussi, en préparant cette émission, donc j'ai regardé ces différents référents. C'est vrai que ça m'a interrogé de dire, tiens, il y a quelqu'un qui est clairement identifié référent, racisme et antisémitisme. Alors pourquoi
c'est réglementaire. Hein. Là aussi, les universités doivent se doter de tels référents. Par exemple, je pense qu'on peut l'évoquer puisque ça a été public, il y a eu un communiqué du président. Voilà, il y a eu deux affaires de racisme là pendant l'année, avec des injures adressées à l'encontre de deux enseignants, et donc l'université a porté plainte. Et le président a fait un communiqué pour condamner de tels agissements. Donc voilà, c'est ensuite la dénomination, elle relève du ministère.
Voilà, donc
et
c'est
réglementaire.
C'est réglementaire, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est en lien avec une recrudescence d'attaques antisémites, ou alors est-ce que cette appellation existe depuis
Non, elle est là aussi, ça fait plusieurs années qu'elle est à l'œuvre. Là encore, j'ai pas les dates, mais je dirais aux environs toujours des années 2013-2015. Mais ce sera à vérifier, très franchement. C'est surtout dans un souci de lutte contre les discriminations. Et c'est bien de cela qu'il s'agit.
Et donc, dans l'idée de faire des actions de médiation, c'est-à-dire que ces personnes-là pourraient éventuellement inventer des actions, disons, en direction des personnels et des étudiants, c'est-à-dire de faire des rappels de la loi, par exemple, sur ce que c'est du harcèlement, qu'est-ce qu'on encourt si on tient des propos ou si on a des comportements déplacés ou qui ne... Comment ça pourrait s'imaginer ce genre d'action ? Est-ce que ça existe déjà, peut-être ?
Oui, alors le rappel à la loi, par exemple, le communiqué qui a été fait au mois de janvier contenait justement un rappel à la loi. Moi, je pense que ce qui est plus intéressant, peut-être, ça, on va le travailler prochainement. Là, c'était un peu impossible de le faire, mais de mener plutôt des actions de prévention. Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant sur les questions d'interculturalité ou autres. Donc voilà, je pense que c'est plutôt vers ce type d'action qu'on souhaiterait se diriger. Donc là, c'est vrai que depuis le mois de janvier, on a été un peu empêché en la matière, mais c'est quand même ça qui est intéressant, en fait. Voilà, organiser des conférences et essayer de travailler ça et nous adresser vraiment à l'ensemble de la communauté universitaire sur ces questions-là.
On peut imaginer aussi que des professeurs aient envie de monter un cours sur une thématique où ils se doutent bien que ça peut être un sujet difficile à aborder avec des étudiants et peut-être se rapprocher de ces référents pour dire est-ce que vous pouvez me donner des conseils ou des directions peut-être sur comment construire mon cours pour est-ce que c'est une utilisation qui peut être imaginée ou
Par exemple, même si bon, voilà, il y a quand même une dimension de liberté pédagogique, et que si l'enseignant fait le choix de faire un cours sur tel aspect, c'est que lui-même a les compétences pour le faire et qu'il se sent tout à fait voilà autorisé et capable de le faire. Mais oui, on peut aussi imaginer que ces référents puissent être une ressource dans ce cadre-là, ou aussi voilà qu'il y a une sorte de communication qui soit faite autour de la présence, par exemple, de ces cours. Si c'est des cours, justement, qui touchent, qui permettent de réfléchir à ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est pas en tout cas, l'interculturalité. Voilà, avoir aussi peut-être une logique de rassemblement en fait toutes, parce qu'il faut pas oublier quand même que l'université c'est un lieu où on produit des connaissances et on les diffuse, et donc pouvoir rassembler finalement tous les lieux dans l'université dans lesquels on évoque ces questions-là. C'est par exemple aussi ce qu'on va faire pour tout ce qui touche à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Voilà, donc dans ces missions, je vois une référente égalité du CEF, SEF. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est le service de la formation. Et donc, cette référente égalité, elle s'occupe beaucoup alors d'une question pour laquelle l'Université de Tours est engagée depuis déjà plusieurs années. On a poursuivi là et un petit peu amplifié cet engagement, c'est à savoir le droit pour tout étudiant ou étudiante de choisir un prénom d'usage qui permet donc aux étudiants d'adopter un prénom plus conforme à leur genre. Voilà, ça nécessite un certain nombre d'interventions sur les logiciels d'inscription. La référente s'occupe en fait de recevoir l'étudiant ou l'étudiante et de procéder aux modifications. Et là, l'enjeu, ça a été de. En fait, on a simplifié procédure, qu'on retrouve là aussi peut-être pas toutes les universités, mais très majoritairement dans les universités. Il y a eu en 2019 un courrier de la ministre, alors qui était juste un courrier, hein, c'est pas donc un cadre réglementaire assez souple, mais quand même un courrier de la ministre qui encourageait les universités à s'engager dans ce type de procédure. Et là, donc, on a simplifié, en fait, la procédure. C'est-à-dire qu'avant, il fallait passer par d'abord un rendez-vous avec la vice-présidence. Et là, ça nous a semblé important de rendre la chose plus simple, plus directe et plus évidente, en quelque sorte. Les étudiants, maintenant, peuvent remplir un formulaire en ligne pour demander la modification de leur prénom d'usage. Ensuite, ils sont évidemment amenés à prendre rendez-vous avec la référente parce qu'il faut procéder aux modifications, Mais la procédure est simplifiée.
Et alors, pour une telle procédure, peut-être qu'il y a des étudiants concernés qui nous écoutent. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, on demande une déclaration, un courrier de l'étudiant ou de l'étudiante, mais c'est tout. On ne demande pas de documents particuliers, peut-être une pièce d'identité, mais...
Non, bah, de toute façon, c'est des étudiants qui sont inscrits, hein, donc voilà. C'est vraiment une déclaration et une demande de l'étudiant. Mais l'étudiant n'est pas obligé, par exemple, d'être, ça c'est un élément important, l'étudiant n'est pas obligé d'être lui-même dans un... ou elle-même dans un processus, par exemple, de changement d'état civil. C'est tout à fait indépendant de ce type de processus.
Alors, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on a une personne qui a eu un diplôme à l'Université de Tours en tant que Thomas Dupont, par exemple, et qui devient, admettons, Jeanne Dupont ?
Oui, alors, bon, c'est ça le point important, c'est que tous les documents ne peuvent pas être concernés par ce changement de prénom d'usage. Et donc, en particulier, les documents qui relèvent de, comment dire, qui ont un lien avec l'identité d'état civil de la personne, donc en particulier le diplôme. En revanche, carte d'étudiant, adresse mail, liste électorale, etc. Là aussi, j'ai plus la liste complète à l'esprit, mais elle est sur le site. Hein, tout est indiqué sur le site de la mission Égalité. En fait, voilà, tout ce qui fait la vie de l'étudiant est concerné quand même par cette possibilité. Et donc, y compris, par exemple, les listes électorales.
Voilà, donc la personne peut apparaître sous le nom qu'elle choisit partout, en fait, sauf sur le diplôme.
Sauf sur le diplôme.
Et ça, est-ce que vous pensez peut-être que dans les années à venir, ça pourrait être changé ou pas du tout ? Ou est-ce qu'il faut faire, là, c'est une procédure d'état civil pour changer le nom sur un diplôme ?
Oui, pour le moment, ça je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est que ce vers quoi on va, c'est vers la simplification de cette question-là. Là aussi, on travaille pour donner cette possibilité au personnel. Mais voilà, ce qui est évident, c'est la simplification de ces procédures. Ensuite, précisément sur le type de document, c'est difficile là d'avoir une vision à plus ou moins long terme. Mais voilà, c'est vraiment la simplification, ça c'est évident que c'est ce qui s'annonce partout.
Voilà, donc référente égalité du SEF ou CEF, c'est Stéphanie Rollin. Il y a également un référent laïcité, Benjamin de Lavergne, qui lui est maître de conférence en droit public. Alors, que fait le référent laïcité ?
Lui aussi, c'est une personne ressource vers laquelle on peut se tourner si on observe un manquement à la laïcité. C'est quelqu'un avec lequel on pourra être amené à travailler ensuite... voilà, sur la définition de la laïcité. Pour le moment, c'est essentiellement l'idée de quelqu'un qu'on peut saisir sur ces questions-là.
Vous avez des exemples peut-être de cas où le référent laïcité a pu être sollicité ?
Non, parce qu'à Tours, il n'y a pas de problème, donc tout va bien.
Bon, bah, tant mieux. Et on voit aussi dans cette équipe, donc il y a un psychologue du travail, Caroline Delavenay.
Carole.
Assistante sociale des personnels, Violetta Compa. Le service de santé universitaire également, voilà, qu'on salue aussi, hein, puisqu'ils interviennent dans cette méridienne régulièrement, et on les en remercie. Et donc là, ces personnels-là, comment ils participent à cette mission égalité ?
Alors, effectivement, là encore, on retrouve cette notion de collégialité et d'équipe. C'est-à-dire que sur un certain nombre de sujets, en fait, on peut avoir des interlocuteurs différents, mais à chaque fois, on se retrouve en tout cas à être en relation avec d'autres équipes de l'université. Alors, je vais vous donner un exemple concret qui va nous ramener justement au plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui comprend dans un de ses volets la création d'une cellule de veille et d'écoute sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, il va concerner à la fois les étudiants, les étudiantes et les personnels. Et donc là, on a monté un groupe de travail, en fait, pour préparer justement cette cellule, dans un groupe de travail, donc, dans lequel se retrouvent justement tous ses collègues, en fait, dans une volonté de traiter la question en termes pluridisciplinaires, en fait. Donc, des personnes du SSU, donc le service de santé universitaire, l'assistante sociale, la psychologue du travail également, et puis d'autres collègues qui ont une certaine expertise sur ce sujet. Et l'idée, c'est bien par la suite de créer cette cellule qui soit pluridisciplinaire, c'est-à-dire où on puisse traiter de ces questions des violences sexistes et sexuelles, à la fois, sous l'angle, disons, juridique, de formation, évidemment, psychologique, médicale, etc., enfin, qui est vraiment une approche pluridisciplinaire de ces questions. Donc ça, oui, le fait que la mission égalité est en réalité en rapport avec un nombre très important de services, et donc, comme vous disiez, c'est l'enjeu, c'est vraiment celui de la transversalité dans l'approche des objets qui nous préoccupent.
Alors, avant que d'en venir à ce plan dont vous nous parliez, Florence Salazar et chers auditeurs, je vous propose de faire une pause musicale pour qu'on ait le temps de préparer l'acte 2 de cette émission. Nous allons écouter un peu de flamenco et on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tour.
Y muchas gracias también a Camarón de la Isla que vuelve a cantarnos a nosotros ahora unos tangos maravillosos.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara, como la agua. Pese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quito el calor, pa' ti mi cuerpo si lo quiere y tú fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. We'll be right back.
Camarón, qué grande.
Voilà, un peu de flamenco dans cette méridienne sur Radio Campus Tours. Florence Alazard, vice-présidente en charge des conditions de travail, des relations humaines et sociales, du handicap et de la lutte contre les discriminations. Voilà, vous êtes ici et merci dans cette émission pour nous parler de la mission égalité de l'Université de Tours et surtout de ce plan que j'ai là sous les yeux qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes, je crois. Est-ce que vous voulez nous le présenter ?
Oui, alors égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors d'abord rappeler peut-être deux éléments, c'est-à-dire que c'est encore une fois une obligation réglementaire puisque en fait ce plan est imposé par la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui était une sorte de grande auberge espagnole où on trouvait du bon et du moins bon. Voilà, c'est mon avis personnel, mais qui a renforcé en particulier la contractualisation dans la fonction publique dont on parlait justement tout à l'heure. Mais dans son article 80, la loi donc impose effectivement aux établissements publics la rédaction de ce plan pour l'égalité professionnelle. Avec un certain nombre d'axes hein, qui sont, enfin, qui étaient là aussi prévus par la loi. Donc voilà, on a fait ce plan. Alors bon, tout de suite en arrivant en fait à la vice-présidence, donc dans une certaine urgence en réalité. Mais l'idée, encore une fois, ça a été de prendre le temps de consulter. Et donc ça, je trouve que c'était un moment à la fois très important et très intéressant parce que on a consulté d'une part à l'intérieur de l'université, en fait, en allant vers les services et les personnes voilà, qui ont une certaine expertise sur ces questions-là. Donc du côté des personnels, ça a été bon, la direction des ressources humaines, l'assistante sociale, la psychologue du travail, les médecins, etc., vers aussi les organisations syndicales qui ont bien sûr là aussi une certaine expertise dans ce domaine-là. Donc ça c'était à l'intérieur de l'université et puis également à l'extérieur de l'université puisqu'on a rencontré un certain nombre d'associations. Pour nous c'était important d'avoir là aussi le relais des associations locales qui travaillent sur toutes les questions du droit des femmes et puis aussi de la discrimination, des violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, ce tour d'horizon a vraiment été important pour nous, pour avoir une assez bonne image, disons, du paysage local sur ces questions-là. Et puis voilà également d'avoir des rencontres, même d'ailleurs avec voilà tout simplement avec des collègues qui nous ont permis de travailler ces aspects. Et donc ensuite effectivement le plan se déploie autour de quatre axes. Donc la question des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La question de l'égal accès au corps, au grade, etc. En fait, c'est la question surtout des promotions et de la mobilité. La question de l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale. Et puis, le dernier volet, c'est tout ce qui touche aux actes de violence, harcèlement moral ou sexuel, qui donc frappe particulièrement, mais pas exclusivement, bien sûr, les femmes. Donc en fait, c'est autour de ces quatre axes-là que l'on a travaillé, avec aussi une dimension importante pour nous, toujours dans l'optique d'avoir un paysage de la situation. On a beaucoup fait travailler les services à la fois DRH et puis les services qui s'occupent des opérations, disons, enfin du pilotage, pardon, donc pour avoir un certain nombre d'indicateurs chiffrés, parce que depuis quelques années, donc l'université a l'obligation, comme toutes les entreprises publiques, hein, de remettre un bilan social donc qui est présenté devant les instances de l'université chaque année. Dans ce bilan social, donc depuis quelques années, on a introduit des éléments qui touchent justement à cette question de rapport de travail sexué, disons. Là, on a voulu aller un petit peu plus loin et avoir des éléments chiffrés plus fins, en fait, pour mesurer justement ces questions-là. Donc voilà, il y a tout un volume d'annexes qui sont des compléments statistiques donc au bilan social 2020. Et le projet, c'est qu'ensuite, ces éléments-là soient désormais partie prenante des prochains bilans sociaux, ce qui nous permettra vraiment tous les ans d'avoir ce paysage-là et de mesurer l'effet ou pas des politiques qu'on pourrait être amené à conduire.
Voilà, donc peut-être que vous voulez donner quelques exemples de ce que ces chiffres justement là mettent en évidence. Là, je vois par exemple sur le taux de féminisation de la PEDR sur les 4 dernières années. Voilà, sur les statuts de maître de conférence et de professeur, je crois. Est-ce que vous voulez nous dire en fait ce qu'on voit là, par exemple, dans ce tableau-là?
Oui, alors ce qu'on voit effectivement, c'est, alors déjà peut-être dire ce que c'est que la PEDR, qui est une prime en fait qui est accordée donc aux enseignants chercheurs et aux enseignantes chercheuses à partir d'un bilan d'activité qui est fait sur 4 ans. C'est dans la logique de prime, hein, donc c'est pas sans poser un certain nombre de problèmes de toute façon, indépendamment de la question de la répartition entre hommes et femmes, c'est de toute façon une pratique qui peut interroger. Voilà, ça c'est la première chose. D'autre part, ce que l'on remarque effectivement, c'est que cette prime est très inégalement répartie entre les femmes et les hommes, même si on observe entre 2017 et 2020 une légère amélioration, en même temps, entre 2019 et 2020, il y a un petit repli. Donc voilà, c'est à vérifier, mais en gros, voilà, il y a 35% la prime est versée à 35% de femmes et à 65% aux hommes. Voilà déjà un élément de discrimination qui est assez saisissant et qu'on peut expliquer pour plein de raisons, en particulier le fait que ce sont surtout les statuts de professeurs qui ont ces primes, lesquels professeurs, donc le grade au-dessus de maître de conférence parmi les enseignants-chercheurs, sont plus... Alors ça dépend là aussi des disciplines, hein, il faudrait avoir une loupe pour regarder ça plus précisément, mais néanmoins, majoritairement, sont davantage des hommes que des femmes. Donc là, il y a un cumul, en fait, de discrimination qu'on peut observer. Donc ça, voilà, c'est effectivement assez significatif. Sinon, en termes de salaire, et ça aussi, je crois que c'est un point important, puisque là, ça touche pas seulement à la question des enseignants-chercheurs, mais plus généralement des biats. Hein. Souvent, on a tendance à considérer que la fonction publique n'est pas concernée par les écarts de salaire qu'on observe dans le privé, parce que effectivement, il y a la question du recrutement sur concours, mais en réalité, les inégalités, elles reviennent par la petite porte, c'est-à-dire elles reviennent par le fait de la contractualisation de plus en plus importante des personnels, par évidemment les temps partiels également, et puis aussi la répartition entre les différentes catégories, hein. On a catégorie A, catégorie B, catégorie C, avec des catégories C qui sont beaucoup plus féminisées que les autres catégories, et donc qui font que de fait, il y a des inégalités salariales. Donc, ils ne sont pas de même nature que celles qu'on peut observer dans le secteur privé. mais qui manifeste effectivement un certain nombre d'inégalités dans l'accès à l'emploi et ensuite également dans la carrière en fait des hommes et des femmes.
Alors, est-ce que vous voulez juste rappeler pour nos auditeurs étudiants qui peut-être ne sont pas au fait de ces catégories A, B, C, c'est quoi comme fonction ? C'est quoi ça ?
Alors ça, c'est simplement en fait une comment dire un élément dans la carrière des catégories de la fonction publique hein, et qui correspond en fait à la façon dont on est recruté dans la fonction publique. Hein. Mais donc sur le plan salarial, alors ça touche évidemment aussi la question du niveau de recrutement, du diplôme de recrutement, mais ça a évidemment ensuite des conséquences en termes salariaux. Donc la catégorie C, c'est la catégorie avec le niveau de recrutement en termes de diplôme qui est le plus bas, et donc le salaire évidemment le plus bas également. Et ensuite on a la catégorie B au-dessus et la catégorie A au-dessus, la catégorie A étant en fait les cadres de la fonction publique. Donc avec un recrutement pour la catégorie A, c'est minimum licence.
Et donc là, on voit aussi que dans ces documents, ça met en évidence ce qui est appelé un indice de plafond de verre.
Oui.
Et un indice d'avantage masculin. Alors ça correspond à quoi ces indices ?
Alors là, c'est un calcul. Je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul parce que c'est extrêmement compliqué. Mais l'idée, c'est effectivement d'objectiver en fait ce qu'on observe, c'est-à-dire les difficultés qu'ont les femmes pour accéder en fait à la position hiérarchique la plus élevée et de ensuite mesurer leur chance d'obtenir effectivement cette position. Donc on a fait ces calculs-là. Alors dans le plan, en fait, je précise pour vos auditeurs que le plan égalité est accessible sur le site de l'université, toujours dans l'onglet mission égalité, et ensuite un petit pavé où on trouve le plan. On a fait ces calculs en distinguant en fait santé et le reste de l'université. Et effectivement, on met en évidence que... Alors donc là, c'est redit hein, dans le plan lui-même. Mais de fait, il y a plafond de verre. Voilà. alors bon, d'une certaine manière, on pourrait penser que... ces indices sont un peu superflus dans la mesure où finalement on le savait, mais je pense que c'est important justement de pouvoir l'objectiver et voilà, je reviens sur ce qu'on évoquait tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de questions qui il y a 10 ans paraissaient semblait à certains inutiles, sans intérêt, etc., sont maintenant absolument évidentes. Bon, bah, là, par exemple, il y a 2 ans, j'entendais vraiment des collègues dans une discussion, des collègues d'autres universités, hein, qui me disaient, mais finalement, maintenant, ça va, tout le monde a les mêmes chances. Et en particulier, bon, c'était en l'occurrence des enseignants-chercheurs, hein, mais pour lesquels l'égalité était acquise, elle était un fait, et qui ne voyaient pas, en fait, alors sans même parler de ce plafond de verre, mais en tout cas, les effets d'autocensure, que pourtant on connaît bien et qui sont bien documentés, justement, par la littérature scientifique. Et donc, pouvoir à nouveau objectiver les choses et dire, eh bien, si on a fait ces calculs et donc il y a bien un plafond de verre pour les femmes dans le déploiement de leur carrière d'enseignante-chercheuse. Ça permet en fait là encore de donner une légitimité plus forte aux politiques d'égalité et permettre d'éviter d'avoir ce haussement d'épaule qu'on peut avoir assez fréquemment encore. Donc.
Ouais, en plus, là, il y a l'idée de dire c'est les chiffres de votre université. Donc, c'est pas le chiffre de l'université de on ne sait pas où, ou d'une collection de chiffres qu'on aurait trouvé, pareil, on ne sait comment. Là, c'est vraiment c'est votre
université. Oui, là, ça a été fait avec avec le bilan social, justement, 2020. Donc voilà. Et là encore, alors, je pense qu'il ne faut pas avoir... Enfin, il ne faut pas fétichiser les chiffres non plus. L'idée, c'est de pouvoir suivre ces données-là sur plusieurs années. C'est ça qui nous permettra aussi d'observer une tendance qu'on peut espérer positive, mais peut-être qu'elle ne le sera pas. Voilà, donc et ça traduit bien effectivement la situation telle que elle est vécue par les femmes et les hommes à l'université de Tours. Oui, tout à fait.
Alors, est-ce que vous avez déjà eu des réactions peut-être d'enseignantes chercheuses suite à ce plan? Est-ce que vous avez certaines qui ont réagi, ou chercheurs aussi d'ailleurs?
Oui, pour le moment, on a eu des réactions positives, donc tant mieux. Là, je pense que ce qui est surtout important, c'est maintenant de faire en sorte que les personnels soient d'une part informés de ce plan et surtout, alors, comme on dit, non, se l'approprient, ce terme est un peu problématique, mais bon, en tout cas, qu'il y ait une vraie diffusion. Alors, un des enjeux, justement, c'est une action qui est prévue dans le plan égalité et à laquelle la mission égalité travaille beaucoup actuellement, c'est la création de ce qu'on appelle des correspondants égalité. Donc, c'est-à-dire des personnes qui seront dans l'ensemble des composantes des UFR, des services, etc. de l'université et qui seront en quelque sorte des relais, j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est un côté descendant. Hein, donc, en tout cas, des personnes intermédiaires, en fait, entre les personnels et la mission égalité, et qui à la fois seront chargées, effectivement, de transmettre de l'information autour du plan égalité, et puis plus généralement de toute la réglementation, en fait, autour de l'égalité, et surtout de faire remonter, c'est ça qui est important, les difficultés rencontrées par les personnels ou le sentiment aussi. Là encore, j'utilise à dessein ce terme-là qui est un peu vague, mais qui est important en fait en termes de... Enfin, pour essayer d'apprécier la façon dont les gens vivent leur position dans les collectifs de travail et donc de faire remonter les difficultés, tout ce qui touche à ces questions d'égalité et que les personnes peuvent vivre au quotidien dans leur travail. Donc, en réalité, je pense que c'est surtout ça qui va être intéressant et qui va, susciter notre attention. C'est de parce que c'est ça qui va aussi créer cette culture de l'égalité dont il est aussi question. Donc, d'avoir vraiment des collègues qui s'emparent de ces questions-là et qui les font vivre au quotidien auprès des collègues eux-mêmes. Et donc l'idée, c'est de les réunir, de les faire participer aussi à la politique d'égalité. Alors, je pense en particulier à une question qui est quand même aussi importante, qui est celle des formations. Formation des collègues, justement, à l'égalité. Formation sur les violences sexistes et sexuelles. Et donc, ces correspondants égalité auront un rôle à jouer autour de, à la fois du choix de ces formations, de la diffusion de l'information autour de ces formations, et aussi dans l'appréciation de ce que peuvent être les discriminations liées à ces questions d'égalité et donc aussi d'inégalité, bien sûr.
Est-ce que vous allez chercher une parité, justement, dans ces correspondants?
Non, alors là, on a fait un appel on a fait un appel à bonne volonté. Donc, on va voir. Ce qu'on espère, c'est avoir aussi bien des hommes que des femmes. On va voir ce qu'il en est, sachant que de toute façon la parité n'existe pas parmi les personnels, elle est en revanche obligatoire. C'est un élément important aussi à rappeler dans les conseils. Les conseils doivent être paritaires. Donc ça, ce sera à voir. Et puis je pense aussi, bon voilà, c'est une nouveauté, donc moi, on va essayer et on ajustera en fonction de la, voilà, la façon dont les gens vont vraiment se saisir de ça. Donc voilà, ce sera à voir.
Et alors sur cette idée d'être correspondant égalité, peut-être qu'il y a des personnels qui auront envie, mais peut-être un peu la trouille de se dire, bah mince, est-ce que je vais pas être taxé d'être suppôt de la présidence, ou est-ce que je vais pas me faire mal voir, en fait, dans certains endroits où il peut encore y avoir, disons, parfois quelques situations difficiles. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire?
Non, bah, j'espère qu'on a levé ces inquiétudes-là dans le message qu'on a donné. Alors, c'est surtout pas des suppôts de la présidence, voilà. Surtout pas. Ça, c'était l'enjeu. Voilà, d'avoir des gens qui soient, bien sûr, totalement libres. Mais il faut, enfin, je pense que le point essentiel, c'est d'avoir des gens qui soient convaincus d'abord de la nécessité de conduire une politique sur ces questions-là, et qui ont un intérêt aussi pour ça. Voilà, enfin, c'est les enjeux essentiels. Ensuite, je pense qu'on, voilà, on peut tout à fait ne pas être d'accord sur telle ou telle question. Et ce sera là tout l'enjeu du travail qu'on sera amené à conduire.
Voilà, et alors si d'aventure certains personnels nous écoutent et sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Est-ce qu'ils peuvent contacter directement la mission égalité?
Ben, normalement, ils ont tous reçu l'appel à candidature.
Oui,
donc,
mais c'est en jamais.
Voilà. Donc, ils ont même reçu un rappel pour certains d'entre eux. Donc voilà. Et donc, c'est la mission égalité qui a une adresse mail, mission.égalité sans accent, @unif-tour.fr. Et donc, ils peuvent la contacter. Et donc, sur le site, il y a aussi un numéro de téléphone, donc voilà, très facile d'accès.
Même pour les étudiants?
Alors, les étudiants peuvent évidemment saisir la mission égalité pour tout ce qui touche à ces questions à la fois d'égalité et de lutte contre les discriminations, bien sûr.
Eh bien, merci à vous, Florence. Ben,
merci de votre accueil.
De rien, cette méridienne touche déjà à sa fin. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle qu'elle sera réécoutée aujourd'hui même à 17h et en podcast sur notre site radiocampustour.com. Vous trouverez évidemment en lien du podcast le lien vers ce plan égalité entre les femmes et les hommes à l'université de Tours. Et je ne résisterai pas à vous mettre le lien également d'un délicieux podcast proposé par Radio Campus Dijon sur les faits Mathilda. Je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos non moins excellents programmes.